mai de la francophonie.
Les francophones interpellent Michaël Jean, c'est maintenant sur RFI.
Bonsoir à tous, alors que s'ouvre le sommet de la francophonie à Madagascar, Michaël Jean est l'invité exceptionnel de ce débat, émission enregistrée il y a quelques jours à Paris. Bonsoir Michaël Jean.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Pendant 20 minutes, vous allez pouvoir répondre aux attentes, aux questions, aux critiques aussi à l'égard de l'organisation que vous incarnez depuis 2 ans. On rappelle donc que vous avez succédé à Abdou Diouf au secrétariat général de l'OIF en 2014 au sommet de Dakar, première femme à occuper ce poste, première non-africaine aussi. Vous êtes née à Haïti, vous avez été élevée au Québec, vous avez été gouverneur général du Canada. Votre première conférence de presse il y a 2 ans à Dakar, vous l'aviez d'ailleurs tenue en français et en anglais. Beaucoup de questions à évoquer avec vous sur l'état de la francophonie, sur les moyens de soutenir l'enseignement du français, sur le rôle politique de l'organisation aussi. Mais dites-nous tout d'abord, Michaël Jean, quel bilan vous tirez de votre action quasiment à mi-parcours ?
Je pense que mon intention première a été de la rendre beaucoup plus audible, beaucoup plus visible.
Plus audible, plus politique aussi peut-être ?
Elle l'était déjà. Je m'engage, je dirais, dans la continuité du sillon et de la voie ouverte par mes prédécesseurs. Mais il m'importait surtout que l'on comprenne bien que cette organisation a une vraie force de proposition et une vraie force d'action. C'est-à-dire que vous la retrouvez aujourd'hui là où parfois on ne l'attendait pas. Nous sommes 80 États et gouvernements sur les 5 continents. Toutes les questions de l'heure nous concernent et nous interpellent. Que ce soit, par exemple, sur l'immigration. Nous sommes à la fois des pays de départ, de transit, de destination, éventuellement d'accueil. Sur la question du terrorisme, je me souviens qu'en 2014, alors que je faisais campagne, les journalistes me demandaient « Mais pourquoi vous parlez du terrorisme ? Et que vient faire l'OIF sur ces questions ?» Et je leur disais « Mais vous n'êtes pas conscient du monde dans lequel nous vivons ?»
Et c'est vrai qu'on vous a vu, vous et pas vos prédécesseurs, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, porter la voix de la francophonie.
C'est votre volonté. C'est tout à fait. C'est-à-dire que j'ai voulu un positionnement aussi plus net, que l'on comprenne que nous avons un point de vue et que nous sommes aussi ce que j'aime appeler une francophonie des solutions.
Alors on va revenir peut-être au cœur de métier, hein, entre guillemets, de la francophonie, la langue française et son rayonnement dans le monde. 273 millions de francophones début 2014. C'est un chiffre en augmentation, hein, on le sait notamment grâce au dynamisme démographique de l'Afrique. Au-delà de ces chiffres, comment va le français dans le monde ?
Il y a une espèce de regain de pertinence et de prise de conscience de cette langue qui est le trait d'union entre nous, j'aime beaucoup qualifier ainsi, et qui représente un outil et un levier extraordinaire pour faire ensemble. Faire ensemble, cela veut dire aussi entreprendre ensemble, cela veut dire échanger. Je rentre d'une tournée en Asie, Vietnam, Cambodge, Laos. On avait assisté à un certain recul du français. Et aujourd'hui, parce que ces pays se réengagent davantage dans la francophonie, qu'ils perçoivent clairement comme un espace aussi de possibilités, de potentialités, d'échanges sur leur projection de croissance et de développement, ces pays demandent que l'on renforce le pacte de coopération avec la francophonie, que l'on forme davantage leurs diplomates en français, que l'on forme davantage les fonctionnaires donc de l'administration publique en français, que l'on renforce aussi nos programmes de formation des maîtres. Et l'idée, c'est l'enseignement du français, mais l'enseignement aussi en français de certains domaines.
Alors justement, on va aller tout de suite à Madagascar. Madagascar, où le français a été tour à tour valorisé ou marginalisé. Aujourd'hui, l'enseignement de la langue française n'y est pas toujours à la hauteur. Reportage dans une école primaire de la région de Tuléar. Il est signé Sarah Tétou.
Nous sommes dans le petit village rural de Tsanissir, à une 50aine de kilomètres au nord de Tuléar. Solange a 14 ans, elle est en 9e, l'équivalent du CE2. Cela fait 3 ans qu'elle apprend le français, à raison de 1 à 5 heures de cours par semaine. Le directeur de l'école la questionne.
Tu sais un peu parler le langage des Blancs ?
Non, je ne sais pas.
Il y a quelques mots que tu connais ou tu ne connais rien ?
Non, je ne connais rien.
Tu ne sais pas dire bonjour ?
Si, bonjour.
Alors dis tous les mots que tu connais en langage des Blancs.
Alors bonjour, comment ça va ? Nous, ça va bien, merci.
À partir de la 9e, la moitié des matières sont enseignées en langue française. Mathématiques, géographie, sciences, tout est expliqué en français. Solange ne comprend donc pas ce qu'explique son maître.
5 plus 7 égale
De son côté, le maître lui-même a bien du mal à comprendre et s'exprimer en français.
Vous apprenez le français aux élèves, mais vous, vous savez parler français ?
Une personne est donc obligée de lui faire la traduction.
C'est vrai que je ne comprends pas ce que vous me dites, mais grâce au manuel, je me débrouille pour enseigner le français.
Des enseignants dans la situation de François Rakoutounian, il en existe des milliers aujourd'hui à Madagascar. L'an dernier, une étude menée par l'Union européenne a montré que 87% des enseignants de la région de Tuléar sont en fait ce que l'on appelle des maîtres FRAM, des enseignants sans aucune formation avec pour seul diplôme le brevet des collèges et qui sont recrutés et payés par les associations des parents d'élèves. Des enseignants livrés à eux-mêmes, sous-payés et qui trouvent leur salut dans des manuels pensés comme si le français était la langue maternelle, une énième embûche pour ses maîtres et leurs élèves, pour qui l'apprentissage du français relève aujourd'hui plus de l'utopie que de la réalité.
Voilà ce reportage de Sarah Teto, formation insuffisante pour les enseignants, au bout du compte un apprentissage approximatif. Qu'est-ce que cela vous inspire, Michael Jean? Comment améliorer l'enseignement du français quand le secteur éducatif lui-même dans son ensemble est en crise?
Je vous dirais que ce reportage aurait pu être tourné en Haïti également. Il y a un vrai enjeu qui est celui de la qualité, qui est celui de la modernisation aussi de la pédagogie. Il ne suffit pas d'envoyer des enfants à l'école, il faut aussi s'assurer qu'ils trouvent là un enseignement de qualité. D'où l'importance pour nous d'investir davantage dans la formation des maîtres, la formation des formateurs. Nous avons, par exemple, en octobre dernier, inauguré l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui est basé à Dakar. L'ambition est vraiment de former jusqu'à 100 000 maîtres et de faire en sorte que nous puissions appuyer les pays de la francophonie qui en ont le plus besoin dans le renforcement, par exemple, de leur politique en matière d'éducation et de formation. Nous le faisons aussi avec, en rassemblant autour de cet institut, l'Agence universitaire de la francophonie qui rassemble plus de 828 universités.
Alors, à l'autre bout du système éducatif, vous l'avez évoqué, il y a les universités. Question venue du Québec pour vous.
Bonjour, ici Luc Allaire, je suis conseiller à la Centrale des syndicats du Québec. Ma question à Madame Michaëlle Jean. De plus en plus dans les universités, lorsqu'on poursuit les études supérieures, les étudiants doivent étudier en anglais, que ce soit les cours qui sont donnés en anglais, même dans les universités francophones, ou tous les travaux doivent être remis en anglais pour les chercheurs. Est-ce que l'OIF s'engage à faire la promotion du français dans les universités pour que l'on puisse étudier en français jusqu'au doctorat?
Pour moi, c'est un plaidoyer extrêmement important. Je ne comprends pas que l'on décide, par exemple, que dans certains domaines, l'enseignement doive se faire, par exemple, dans les domaines scientifiques et des nouvelles technologies en anglais. Je vois dans les pays de la francophonie cette tendance engagée, y compris en France, et pour moi, c'est se tirer dans le pied. Il n'est pas vrai que les sciences doivent s'enseigner en anglais, et souvent, ce que l'on rétorque, c'est de dire, oui, mais désormais, pour la recherche, il faut publier en anglais si l'on veut qu'elle soit diffusée. C'est un leurre. On peut faire de la recherche en français et si l'on veut la diffuser, je dirais en anglais également ou dans une autre langue, la traduction existe.
16e sommet de la francophonie à Madagascar.
Les francophones interpellent Michael Jean. C'est maintenant sur RFI.
Michael Jean, invité de RFI à la veille du sommet de la francophonie à Madagascar. On a eu, Michael Jean, des années électorales très riches. 2015, 2016, Burundi, Burkina, Bénin, Gabon, Congo notamment. Il y a évidemment beaucoup de questions sur le rôle politique de l'OIF. Écoutez les messages que vous adressent deux figures de la société civile en Afrique de l'Ouest. Premier message venu du Sénégal.
Bonjour, Michael Jean. Moi, c'est Fadel Barrow du mouvement Yanamar au Sénégal. Ce qu'on ne comprend pas, nous, les jeunesses, de manière générale, et les jeunes Africains en particulier, c'est le manque d'agressivité, de hargne, de griffe de cette institution qui pourrait être une belle opportunité pour tout le monde. On ne les sent pas pendant les élections, à part faire comme tout le monde, envoyer des observateurs qui, au bout du compte, deviennent des complices de la préfecture. On ne sent pas la francophonie prendre des décisions fermes. Alors, depuis que vous êtes là, vous essayez d'apporter une touche nouvelle. Est-ce que cette touche va se sentir au niveau des élections? Parce que tout se règle là. En parlant de tous les sujets que nous voulons, s'il n'y a pas de respiration démocratique, ça ne sert absolument à rien. Est-ce que la francophonie prendra son courage à deux mains pour dire qu'au Gabon, les élections ont été volées? pour dire qu'au Congo-Kinshasa, les élections doivent se faire. Pour dire qu'au Brazzaville, qu'un président n'a pas le droit de changer les jeux au moment du jeu. Pour dire simplement la démocratie en Afrique, parce que c'est des valeurs aussi de la francophonie, la démocratie. Concrètement, Michael Jean, si la francophonie est une affaire de peuple, est-ce que la francophonie sera à côté des peuples pour que des élections se passent de manière transparente?
Deuxième message venu du Burkina, c'est Guy Hervé Cam du mouvement Le Ballet Citoyen qui vous interpelle également sur ce volet politique.
Comment vous jugez l'impact de la francophonie sur le développement de la démocratie quand on voit que les pays francophones, notamment africains, sont en retard sur ce terrain-là par rapport à leurs voisins anglophones? Est-ce que finalement le Commonwealth n'est pas plus à cheval sur les principes démocratiques que la francophonie?
Voilà, double interpellation, cette impression que les observateurs de l'OIF parfois cautionnent et ne peuvent rien contre les fraudes.
Non. Déjà, il y a un malentendu. Vous parlez d'observateurs. Nous, nous intervenons bien avant, bien en amont. Dans tous les cas cités, nous sommes à pied d'œuvre, nos équipes, nos missions, mes envoyés spéciaux, des mois avant la tenue des élections, des fois un an avant. Pourquoi ? Parce que nous travaillons beaucoup, d'une part avec la société civile, avec les journalistes. Nous rassemblons la classe politique. Je le fais même moi, personnellement. Avant les élections au Gabon, je m'y suis rendue. J'ai rassemblé la classe politique, j'ai rassemblé les acteurs, la société civile. J'ai fait la même chose en Guinée. Et l'important est de s'assurer que les choses puissent se passer dans un climat apaisé. Nous arrivons aussi, nous sommes à double détente. D'une part, renforcement des institutions. Et d'autre part, un apport aussi technique. Comment pensez-vous qu'ils se construisent les fichiers électoraux, sinon avec notre aide, avec nos spécialistes, nos experts? Comment se passe, par exemple, l'audit de ces fichiers électoraux? C'est nous, la francophonie, qui sommes là, à pied d'œuvre. Lorsqu'il y a contentieux électoral, qui est là? La francophonie. Nous ne déployons pas, c'est vrai, au moment du vote, 200 observateurs à travers le pays. Par contre, nous sommes là avant, nous sommes là pendant et nous sommes là après.
Vous évoquiez le Gabon, Michael Jean. C'était une interpellation directe de Fadel Barreau. Il y a eu cette réélection contestée d'Ali Bongo. Vous avez parlé d'ailleurs d'irrégularité quand la Cour constitutionnelle a rendu son verdict en faveur du sort. Peut-être qu'il y a une attente d'une voix plus forte de l'institution que vous représentez quand une telle situation se présente.
Avant d'opiner de la sorte, ce qu'il faut, c'est aussi suivre de près toutes les positions que nous prenons, et nous le faisons avec fermeté, et nous nous assurons aussi de porter ce message là où il le faut et quand il le faut. Je suis en même temps dans une pratique d'une diplomatie qui est à la fois affirmée, qui peut être aussi discrète, mais elle est constante. Elle est constante. Et nous ne faisons pas la sourde oreille. Je suis ravie de voir des citoyens parler de la sorte et prendre position. Cette parole forte venant des citoyens, moi je dirais que le travail sur le long terme qui a été fait par l'OIF y a participé aussi.
Il y a effectivement le travail de long terme, et puis c'est vrai qu'il y a aussi une actualité, des urgences. Je pense évidemment à la RDC où un scrutin présidentiel aurait dû normalement se tenir d'ici la fin de l'année. Il y a eu cet accord politique entre le pouvoir et une partie de l'opposition qui entérine de fait un report du scrutin. Quel est votre message au pouvoir congolais, Michael Jean?
Le message est clair. Nous avons été là pour certainement, oui, accompagner ce dialogue national. Nous avons été là, proche aussi du facilitateur de l'Union africaine, pour ce dialogue national. Nous avons vu que nombre de partis d'opposition avaient accepté de venir autour de la table pour discuter, se faire entendre. D'autres ont préféré s'abstenir et ne pas y participer. Cela dit, j'estime que ce n'est que le début d'un travail qui est absolument nécessaire. Et ce que nous avons toujours réclamé, c'est que ce dialogue soit inclusif, que l'on arrive à un compromis et à des options très claires qui rassemblent dans l'intérêt supérieur de ce pays. Bien sûr, on a vu les résultats, des voix se sont élevées pour dire qu'il fallait absolument que les élections se tiennent dans les meilleurs délais, dans le respect de la Constitution. Nous aussi, c'est un parti pris que nous partageons.
Cette référence au Commonwealth, évoquée par Guy Hervé Cam, qui considère cette organisation comme plus intransigeante finalement sur les questions de démocratie, de transparence.
Écoutez, le Commonwealth et la francophonie travaillent en étroite collaboration. Je ne pense pas que l'on puisse prétendre que dans les pays anglophones ou anglo-saxons, que l'on ait moins de déficit démocratique. Franchement, c'est à très courte vue que d'affirmer cela.
Une dernière interpellation qui nous vient du Cambodge. On quitte les questions politiques. Michael Jean, il est question cette fois d'économie.
Bonjour, donc je m'appelle Soterat Siang, je suis cambodgien, j'ai 23 ans. Que ce soit au Cambodge ou dans les autres pays en développement, si la croissance n'est pas responsable et partagée par toute la population, surtout ceux qui sont délaissés, ceux qui sont dans les milieux désavantagés, tout ça, donc possiblement c'est un impact sur le problème de radicalisation. Je pense que c'est surtout les jeunes gens qui sont délaissés dans les banlieues, dans les périphéries, et je pense et je l'espère que nous allons passer à l'action.
Michael Jean, on est en plein dans le thème de ce sommet de Madagascar, hein, croissance partagée, développement responsable. Quel peut être l'apport de la francophonie dans, par exemple, la prévention de la radicalisation, comme vient de le dire notre interlocuteur?
Alors, donner de l'espoir, donner des raisons d'espérer, agir concrètement. Rien qu'en Afrique, en ce moment, l'OIF est à déployer des incubateurs pour soutenir l'entrepreneuriat, soutenir la création d'emplois dans des filières qui sont porteuses et en priorisant vraiment les activités économiques menées par les jeunes et par les femmes. Libre Ensemble, avec un S à Libre, c'est cette plateforme que nous avons créée. Nous avons touché plus de 3 millions d'internautes sur les réseaux sociaux. C'est dire qu'il y a dans la jeunesse un désir de s'associer autour de valeurs.
Je voudrais qu'on termine avec deux questions qui vous concernent, vous, plus directement, Michael Jean. La presse québécoise vous a accusé de ci, de là, de mener un train de vie de reine à l'OIF en équipant votre résidence d'un piano à queue. Voilà, ce sont des propos tenus alors, dans la presse québécoise.
Merci de me
donner
l'occasion.
Qu'est-ce que vous avez à y répondre ?
J'y ai déjà répondu. Une résidence officielle est aussi un espace pour de la diplomatie active, pour des activités aussi culturelles. Et ce piano ne m'appartient pas. Ce piano appartient à l'OIF qui a décidé d'équiper cette résidence officielle d'un instrument qui permette de tenir des activités culturelles dans cette résidence lors de réunions que nous y tenons. Et nous avons d'ailleurs pu ainsi faire entendre une soprano albanaise avec une pianiste albanaise, un violoncelliste qui lors d'une activité qui rassemblait la communauté diplomatique se sont fait entendre. Mmh. Moi, je ne mène pas un train de vie de reine. Je trouve ça ignoble comme accusation. En plus, sur un instrument qui ne m'appartient pas.
Vous êtes à mi-mandat, hein, on l'a dit dès le début de cette émission. La deuxième partie de ce mandat, quelles seront vos priorités et est-ce que vous en briguerez un second?
L'important, c'est de continuer un travail avec constance, avec détermination, de faire en sorte que l'on porte la parole sur les principes et les valeurs défendues par la francophonie, comme j'ai su le faire au Conseil de sécurité, alors que une décision était prise en République démocratique du Congo de brouiller les ondes pour RFI et pour la radio Okapi de l'ONU, de défendre ces principes de liberté d'expression, de liberté de la presse, de défendre aussi avec le plus grand acharnement le respect des droits et des libertés dans notre espace, de faire en sorte que l'état de droit soit renforcé partout, que les institutions soient également renforcées, de faire en sorte que la francophonie soit aussi un espace où l'on peut rêver de vivre mieux, de répondre avec beaucoup de diligence aussi face à toutes les menaces, face à toutes les crises que notre monde doit aujourd'hui affronter et qui n'épargnent pas la francophonie. De le faire avec tout ce que nous sommes, notre force de proposition et notre force d'action. Et à cela, je suis totalement déterminée. Alors, ne me posez pas de questions sur ce que je souhaite, un second mandat ou un autre. L'important.
Mais le
pour
chantier
moi,
est immense, en tout cas. 4 années de plus, ce ne serait pas un luxe.
Bien sûr que le chantier est immense, mais il mérite aussi que l'on s'y attelle et il mérite aussi que l'on sache mieux ce que nous faisons, que l'on sache mieux ce qu'est cette francophonie, qui est un espace à la fois d'expertise, de savoir-faire, un réseau immense d'organisations de la société civile et d'organisations non gouvernementales, un réseau aussi de pays qui sont là, prêts à coopérer davantage. C'est tout cela que nous faisons. Et je dirais que nous le faisons avec conviction.
Merci beaucoup, Michael Jean, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci à Bertrand Éclair à la réalisation, Laurent Courreau à la rédaction en chef, Sarah Tetto, Guillaume Thibault, Karine Franck, Laura Martel, Pierre Pinto nous ont fourni la matière première, ces questions venues de l'espace francophone. Ce sommet sera bien sûr à suivre sur nos ondes ce week-end, première édition spéciale dès samedi matin.